Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La vache pourpre est un essai de marketing » de Seth Godin, publié à l'origine en anglais sous le titre Purple Cow et proposé ici dans une deuxième édition française. Son propos part d'un constat simple: dans des marchés encombrés, les produits corrects, même bien promus, deviennent facilement invisibles. La métaphore centrale désigne donc une offre si singulière, utile ou surprenante que les personnes ont envie de la remarquer et de la raconter. Godin ne présente pas la différenciation comme un simple exercice de communication appliqué après la conception. Il soutient que le caractère remarquable doit être intégré au produit, au service, au positionnement et à l'expérience proposée. L'ouvrage relève autant de la critique du marketing de masse que du guide stratégique pour les entrepreneurs, responsables de marques et créateurs. Sous une forme brève et volontairement provocatrice, il invite à déplacer les efforts depuis la publicité destinée à tous vers la création d'une offre pertinente pour un public disposé à adopter et diffuser la nouveauté. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la vache pourpre comme critère de conception de l'offre. La vache pourpre ne signifie pas seulement être différent à tout prix. Chez Godin, une offre remarquable mérite une remarque. Elle possède une caractéristique assez visible, pertinente ou inattendue pour interrompre l'indifférence. Une couleur de marque originale ne suffit donc pas si le produit reste interchangeable dans son usage. La distinction doit produire une raison concrète de prêter attention, puis idéalement de recommander. Cette idée déplace la fonction du marketing. Au lieu de considérer que le marketing intervient surtout pour faire connaître un produit déjà finalisé, le livre demande de concevoir un produit dont les qualités facilitent elles-mêmes sa circulation. Le caractère remarquable peut venir du service, de la simplicité, de la spécialisation, du prix, du design, de la distribution ou de la manière de résoudre un problème. Il ne correspond pas à une recette unique. Godin insiste aussi sur le fait qu'une offre remarquable ne plaira pas uniformément. Elle peut sembler excessive, étrange ou inutile à une partie du marché. Cette possibilité de polarisation est précisément ce qui la distingue des produits conçus pour ne déranger personne. Le critère pertinent devient alors moins la conformité aux habitudes que la capacité à compter réellement pour un segment identifiable. Deuxièmement, la saturation médiatique limite le modèle fondé sur la publicité de masse. Le livre conteste le modèle dans lequel une entreprise fabrique un produit standard, achète de la visibilité, puis espère convaincre une large audience. Godin observe que les consommateurs sont exposés à trop de messages, disposent de peu de temps et ont appris à filtrer les sollicitations commerciales. Dans ce contexte, accroître la pression publicitaire ne garantit ni attention ni mémorisation. Les outils classiques du marketing, comme le prix, la promotion, la publicité ou le conditionnement, ne disparaissent pas, mais ils ne peuvent compenser durablement une offre banale. Cette critique importe car elle vise une organisation entière et non une campagne isolée. Si la différenciation est pensée trop tard, les équipes cherchent souvent à inventer un discours spectaculaire autour de qualités ordinaires. Or, Godin considère que cette opération échoue lorsque l'expérience réelle ne confirme pas la promesse. Le livre propose donc une logique inverse: commencer par une proposition capable de susciter un intérêt légitime, puis employer la communication pour rendre cette différence compréhensible et accessible. Cette approche ne nie pas les contraintes de marché. Elle rappelle plutôt que la visibilité achetée a une valeur limitée quand elle dirige les personnes vers une offre qu'elles ne jugent ni nouvelle ni digne de partage. Troisièmement, les adopteurs précoces et les contaminateurs comme relais de diffusion. Godin recommande de ne pas viser immédiatement le centre du marché. Il accorde une place stratégique aux personnes situées sur les bords de la courbe de diffusion amateur de nouveautés, spécialistes, clients très engagés et relais influents dans leur entourage. Le livre les désigne notamment comme des contaminateurs, non au sens médical, mais comme des personnes qui propagent volontiers une idée qui les intéresse. Leur rôle est décisif car ils réduisent le coût et augmentent la crédibilité de la diffusion par le bouche à oreille. Cette approche exige une connaissance fine du public initial. Une entreprise doit identifier qui éprouve fortement le problème traité, qui apprécie une proposition non conventionnelle et qui dispose canaux naturels pour en parler. Elle doit aussi fournir une idée facile à transmettre, une démonstration claire ou une histoire simple. Le mécanisme ne repose pas sur une manipulation de clients passifs. Il dépend de la valeur réelle perçue par les premiers utilisateurs sans expérience satisfaisante. Il ne reste aucun récit crédible à partager. Le livre met ainsi en relation innovation et ciblage. Une offre trop générale risque de ne provoquer aucune réaction forte, tandis qu'une offre précisément pensée pour un groupe réceptif peut ensuite élargir son influence par recommandation. Quatrièmement, le risque et l'échec comme coûts normaux de la différenciation. La recherche du remarquable comporte une conséquence que Godin ne masque pas: toutes les tentatives ne trouveront pas leur public. Les organisations préfèrent souvent les améliorations prudentes, car elles paraissent plus faciles à justifier et moins dangereuses pour une marque établie. Pourtant, cette prudence peut aussi produire une invisibilité coûteuse. Si chacun cherche à satisfaire tout le monde et à éviter toute objection, les offres convergent et deviennent comparables uniquement par le prix ou la puissance promotionnelle. Le livre défend donc une tolérance plus élevée à l'expérimentation. Il ne valorise pas le risque pour lui-même, ni la nouveauté vide de sens. Il souligne plutôt qu'il est impossible de savoir avec certitude, avant le marché, quelle idée deviendra réellement remarquable. Cette incertitude impose de tester, d'écouter les réponses des premiers utilisateurs et d'accepter que certaines initiatives soient abandonnées. Pour les dirigeants, la leçon est aussi organisationnelle. Les processus internes doivent laisser une marge aux idées atypiques au lieu de les neutraliser immédiatement au nom de la cohérence ou de la sécurité. La différenciation devient alors un portefeuille d'essais informés dans lequel les échecs limités contribuent à découvrir les propositions qui méritent des investissements plus importants. En dernier lieu, renouveler la différence plutôt que gérer indéfiniment une innovation, la vache pourpre ne constitue pas un avantage permanent. Une innovation qui attire fortement les regards finit souvent par être imitée, comprise ou intégrée aux attentes ordinaires du marché. Godin invite donc les entreprises à traiter le caractère remarquable comme un cycle plutôt que comme une conquête définitive. Après avoir trouvé une offre qui fonctionne, elles doivent en assurer l'exploitation, consolider son service et tirer parti de sa rentabilité. Mais elles doivent aussi préserver des ressources pour rechercher la prochaine différence significative. Cette idée évite deux erreurs opposées. La première consiste à abandonner trop tôt une innovation prometteuse sans lui donner la diffusion et l'exécution nécessaires. La seconde consiste à dépendre trop longtemps du même succès jusqu'à ce que la concurrence ou les nouveaux usages le rendent banal. Le cycle proposé relie ainsi acquisition de premiers relais, aide à la transmission de l'idée, délégation de la gestion courante et réinvestissement dans une nouvelle initiative. Le point essentiel et stratégique, l'entreprise ne doit pas confondre sa capacité à administrer un produit existant avec sa capacité à rester intéressante. La seconde demande une attention continue au public, aux usages et aux occasions de créer une valeur différente. En conclusion, la vache pourpre convient particulièrement aux entrepreneurs, responsables de produits, professionnels du marketing, créateurs indépendants et dirigeants de petites ou grandes structures confrontés à une concurrence où beaucoup de propositions paraissent semblables. Les lecteurs qui cherchent un manuel technique de publicité, une méthode chiffrée de segmentation ou des études de cas très développées devront compléter cet essai par des ouvrages plus opérationnels. Sa force est ailleurs, il fournit un principe de décision net pour examiner une offre. Est-elle suffisamment intéressante pour que certaines personnes choisissent d'en parler sans y être contraintes ? Cette question peut aider à revoir un positionnement, une expérience client, une fonctionnalité, un modèle de distribution ou la définition même du public prioritaire. Le bénéfice intellectuel du livre tient à son renversement de perspective. La communication ne devrait pas maquiller une offre ordinaire. Elle devrait amplifier une différence déjà perceptible dans le produit ou le service. Par rapport à de nombreux livres de marketing centrés sur les outils promotionnels, Godin met l'accent sur la conception de ce qui mérite le marketing. Son style bref, fondé sur une métaphore mémorable et des affirmations tranchées, rend le propos facile à retenir. Cette simplicité peut laisser certains enjeux pratiques ouverts, notamment la validation d'une idée et son exécution. Elle donne néanmoins au livre une place durable dans la littérature de la différenciation. Il pousse moins à optimiser le discours commercial qu'à créer une proposition dont la valeur et la singularité rendent ce discours naturel. Si vous souhaitez soutenir Seth Godin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!